Situation inédite sous la 5e République. 14 heures seulement après avoir annoncé la composition de son gouvernement, Sébastien Cornu, le Premier ministre, a démissionné. Situation politique qui suscite réactions, commentaires, mais aussi beaucoup d'interrogations en Calédonie. Malgré un secteur encore très perturbé et une situation financière fragile, l'usine du Sud se fixe l'objectif d'une production de 45 000 tonnes par an. La direction de Prony Resources rencontrait la presse cet après-midi. Éleveurs et agriculteurs étaient réunis à Bouloupari pour la 3e édition des Rencontres de qualité. Les participants ont visité un élevage à Bouloupari et ont participé à des tables rondes. Un rêve de gosse, une centaine d'enfants valides et handicapés ont survolé Nouméa ce matin, une première sur le territoire. Reportage dans ce journal. Et puis le musée de la ville met à disposition une salle de lecture temporaire pour les usagers de la médiathèque. La salle sera ouverte les mardis, mercredis, vendredis et samedis. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. C'est donc une crise politique sans précédent que connaît la France au lendemain de la démission de Sébastien Lecornu de ses fonctions de Premier ministre. Sébastien Lecornu, qui aura été le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire, il aura tenu 26 jours et son gouvernement 14 heures et 26 minutes. Il est désormais en charge des affaires courantes et il a été missionné par le Président de la République pour trouver un accord avec les principales forces politiques. Une situation inédite qui va de rebondissement en rebondissement. Et en Nouvelle-Calédonie, la démission de Sébastien Lecornu suscite des interrogations et des inquiétudes, Elisabeth Noir.
La démission de Sébastien Lecornu, quelques heures seulement après l'annonce de la constitution de son gouvernement, a eu des allures hier soir pour nous de coups de théâtre. La pierre d'achoppement, c'est notamment la nomination de Bruno Le Maire comme ministre des Armées, l'ancien titulaire de Bercy qui fait figure d'épouvantail. Il passe pour l'un des responsables du déraillement de la dette. Peu après la publication du nouveau gouvernement, le président des LR, Bruno Retailleau, s'est insurgé publiquement contre sa composition, qui ne reflète pas, a-t-il dit, la rupture promise, d'autant plus que le président des LR n'avait pas été prévenu de la présence de Bruno Le Maire, malgré une heure et demie d'entretien en tête-à-tête avec le Premier ministre, Bruno Retailleau, dont vous pourrez d'ailleurs entendre juste après ce journal l'interview qu'il vient d'accorder à Sonia Mabrouk pour Europe 1. Toujours est-il que face à la situation, Sébastien Lecornu a fait le constat quelques heures après la nomination de son gouvernement que les conditions n'étaient pas réunies et il a annoncé sa démission. Sébastien Lecornu qui cite la Nouvelle-Calédonie parmi les dossiers urgents dont il faut se saisir. Les réactions ont été immédiates dans la classe politique. Marine Le Pen a appelé à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a réclamé quant à lui la démission d'Emmanuel Macron. Et il y a quelques instants, Édouard Philippe a suggéré au chef de l'État d'organiser au plus vite une élection présidentielle anticipée. Auparavant, Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre et président du parti présidentiel, avait clairement pris ses distances avec Emmanuel Macron, dont il a déclaré ne plus comprendre les réactions. Bref, c'est l'ébullition, mais entre-temps, dans la nuit pour nous, vous le disiez, est intervenu un autre rebondissement. Emmanuel Macron a demandé à Sébastien Lecornu, qui n'a plus qu'en charge les affaires courantes, de mener d'ici à mercredi soir d'ultimes négociations avec les différents partis politiques sur une plateforme d'action et de stabilité pour le pays, des négociations à la suite desquelles le président de la République annonce qu'il prendra ses responsabilités.
Le gouvernement Lecornu aura donc été le plus bref de la 5e République. On parle aujourd'hui d'une possible dissolution de l'Assemblée nationale, voire d'une démission du président de la République et la Calédonie. Dans tout ça, Elisabeth ?
Eh bien, tout ça n'arrange pas nos affaires alors que le Parlement devait adopter la loi organique de report des élections provinciales et que le Conseil des ministres devait examiner le projet de loi constitutionnelle pour inscrire l'accord de Bougival dans la Constitution. Sans être catastrophiste, on peut craindre que le calendrier initial soit largement bouleversé. Pour Sonia Becquès, qui s'exprime sur ses réseaux, la démission de Sébastien Lecornu est le signe d'une crise politique sans précédent à l'échelle nationale. Elle estime que cette crise arrive au plus mauvais moment pour la Nouvelle-Calédonie. Et elle ajoute, quel que soit notre bord politique, nous aurons besoin d'être unis pour faire face aux difficultés générées par cette crise. Le député Nicolas Mézenc écrit lui aussi sur Facebook que la France traverse une crise de régime sans précédent au plus mauvais moment pour la Nouvelle-Calédonie. Il appelle les Calédoniens à se montrer solidaires et il conseille à notre classe politique de ne pas reproduire le spectacle affligeant que nous offre Paris. Concernant la Calédonie, Nicolas Mézenc précise que les services de l'Élysée et de Matignon regardent désormais si une procédure d'urgence d'adoption de la loi reportant les provinciales pourrait être adoptée avec un gouvernement démissionnaire. L'objectif est toujours, selon le député de la première circonscription, de pouvoir organiser une consultation des Calédoniens concernant l'accord de Bougival. En tous les cas, écrit-il, les choses aujourd'hui ne sont clairement pas arrêtées. et elles évoluent d'heure en heure. Réaction également du député Emmanuel Tchibaou qui estime, lui, que le dialogue reste la seule voie pérenne. Dans ce moment d'incertitude politique à Paris, écrit-il, une chose reste claire, le destin de notre pays ne peut se construire sans la recherche sincère du consensus. La démission du Premier ministre ne doit pas interrompre le travail engagé, mais au contraire rappeler l'urgence de renouer un dialogue loyal, respectueux et équilibré. Le député de la seconde circonscription qui annonce aussi que le groupe socialiste du Sénat a déposé en commission des lois un amendement à la proposition de loi organique de report des provinciales pour affirmer la volonté de poursuivre le dialogue entre toutes les parties, y compris le FLNKS, dans un esprit de concertation, de confiance et d'ouverture vers la pleine souveraineté. Cet amendement, selon Emmanuel Tchibaou, invite la commission des lois du Sénat à reconnaître que le FLNKS reste incontournable et qu'aucune solution durable ne peut émerger sans sa pleine participation. Il faut sans doute maintenant laisser les choses se décanter et attendre jeudi matin pour en savoir peut-être un peu plus, savoir notamment quelles seront les échéances électorales auxquelles la Nouvelle-Calédonie sera confrontée dans les prochaines semaines.
Une crise politique inédite sous la Ve République, donc. Emmanuel Macron a de moins en moins de cartes en main. Le président de la République est désormais suspendu aux ultimes négociations que Sébastien Lecornu va mener d'ici mercredi soir à Paris, soit jeudi matin pour nous.
Radio Rythme Bleu, opinion.
La réponse à notre question d'hier, elle est un peu bousculée forcément par l'actualité politique nationale puisque nous vous l'avions posée avant la démission de Sébastien Lecornu. 94% des auditeurs d'Erarbe qui se sont exprimés par SMS se disaient satisfaits que Manuel Valls soit reconduit au ministère des Outre-mer. Il n'était que 6% à dire qu'il n'était pas satisfait. Voici notre question du jour. Êtes-vous déçu de la démission de Sébastien Lecornu? Si vous êtes déçu, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. En bref, une grosse saisie de drogue et d'armes à feu réalisée ce matin à Saint-Louis, au Mont-d'Or, à la suite d'un contrôle fait par les gendarmes mobiles et la brigade territoriale. 150 pieds de cannabis et 4 armes à feu détenues illégalement ont été découverts sur un terrain de la tribu. Une enquête a été ouverte pour détention de produits stupéfiants et détention d'armes. Une personne est actuellement en garde à vue. En bref, encore cette modification dans la composition du conseil municipal de La Foy. Le troisième adjoint au maire, Michel Santacros, a présenté sa démission au maire de la commune, Florence Roland, à la suite d'une condamnation par le tribunal correctionnel. Dans un communiqué, la commune de La Foy indique que dans un contexte budgétaire contraint et à l'approche des élections municipales l'an prochain, ce poste d'adjoint restera vacant jusqu'au renouvellement du conseil municipal. Les délégations de fonction de cet adjoint seront réparties entre les adjoints existants lors du prochain conseil municipal, peut-on encore lire dans ce communiqué. Être rentable le plus tôt possible, c'est la volonté de Prony Resources dont la direction s'est livrée cet après-midi à un point de situation. Malgré un secteur encore très perturbé, une situation financière fragile, l'usine du Sud se fixe l'objectif d'une production de 45 000 tonnes par an, Elisabeth.
Une production de 45 000 tonnes annuelles qui est un objectif possible, notamment après un bon mois d'août et un très bon mois de septembre où la production a atteint 3 652 tonnes. Le commentaire sur ces chiffres de Thibault Martelin, il a été nommé en juillet dernier président de PRNC pour succéder à Béatrice Pierre.
La production est effectivement en nette amélioration. On souffre encore énormément d'un contexte très compliqué avec des difficultés de trésorerie qui persistent. Pour autant, notre ambition est, par un vaste plan d'amélioration de la performance et d'économie, d'arriver à un équilibre financier le plus vite possible.
Les difficultés auxquelles vous faites allusion, elles dataient d'avant mai 2024 ou elles ont été aggravées par mai 2024?
Il y a deux types de difficultés. Il y a les difficultés qui sont liées au territoire et qui ont été fortement aggravées par la situation créée à partir de mai 2024 avec un départ massif de compétences du territoire, avec une mise en sommeil de la société pendant 7 mois, qui a fortement pénalisé et notre trésorerie et nos installations. Et puis il y a une difficulté qui est extérieure au territoire, avec un contexte du nickel toujours très tendu, avec une concurrence indonésienne forte, et derrière avec un process de restructuration capitalistique de la société qui prend du temps, mais qui reste complètement d'actualité.
Une amélioration de la production donc, mais une trésorerie qui reste extrêmement tendue. La visibilité n'est que de quelques mois et cela grâce aux prêts d'État contractés en juillet 2025. La situation reste fragile, reconnaît le président de PRNC, qui est interrogé sur le projet de reprise de l'usine du Sud.
Les discussions sont toujours en cours. Les repreneurs ont renouvelé leur fort intérêt pour rentrer au capital de PRNC et nous sommes très confiants sur l'aboutissement de cette négociation.
À quelle échéance ça pourrait être conclu ?
Alors nous sommes bien évidemment intéressés pour que ça aboutisse le plus rapidement possible, pour avoir un actionnariat stable et pour qu'on puisse se projeter et réaliser des investissements qui nous permettent de garantir notre production nominale. Mais ça va dépendre énormément des discussions qui seront menées à des niveaux qui me dépassent très largement.
Et là encore, la situation politique nationale ne facilite pas les choses, puisque la transaction avec le consortium est aux mains de l'État. Il faut donc là aussi le plus vite possible des interlocuteurs qui aient mandat pour signer. Dans ce contexte, PRNC a mis en place un plan ambitieux d'économie avec de nombreuses initiatives déployées sur 3 ans jusqu'en 2028. Cela passe par l'innovation pour trouver des solutions techniques, par la baisse des coûts énergétiques, avec notamment un recyclage de la vapeur, mais aussi par une diversification des produits, une rationalisation des coûts et une évolution de la sous-traitance ou de la gouvernance.
On se concentre sur notre métier. On a demandé énormément d'efforts à l'ensemble du personnel, des sous-traitants. On est en recherche constante d'amélioration et de productivité et on commence à récolter les fruits de tous ces efforts. On atteint une production qui est effectivement en ligne avec notre budget, qui est assez proche aujourd'hui du nominal de l'usine si on arrive à maintenir sur plusieurs mois d'affilée cette production. Et je tenais d'ailleurs à féliciter les équipes pour leur engagement et leur professionnalisme.
Une production en amélioration, donc, à destination de clients traditionnels, essentiellement Valet et Tesla. Mais avec un produit très attractif, souligne Thibaut Martelin, parce que le coût du NHC est très compétitif par rapport à celui des mats de nickel. PRNC qui poursuit par ailleurs le projet de Lucie. Sa mise en service est envisagée pour début 2026.
Alors ça avance très bien, on a maintenu l'intégralité de nos investissements pour la protection de l'environnement et la sécurité de notre personnel. Pour le projet Lucie, on est sur des objectifs pour une mise en production début d'année 2026, conformément à ce en quoi on s'était engagé. Et a priori, on est plutôt bien parti pour les...
C'est une avancée sensible pour l'usine, pour vous, c'est vraiment une amélioration tangible ?
Sur le process, ça nous permet en fait de désarmer une partie du risque environnemental, hein, puisque le projet Lucie a ce double intérêt de stopper le stockage de résidus humides derrière un barrage, de conforter ce barrage en érigeant une verse de confortement devant ce barrage avec les résidus secs, et à terme d'assécher le barrage et de désarmer complètement le risque environnemental sur la zone.
Et à ce propos, Thibaut Martelin s'agace de la polémique autour du trou supplémentaire sur l'émissaire marin. Il explique qu'il est nécessaire à l'augmentation du volume d'eau à traiter du fait du pressage des résidus. Stocker des résidus secs, cela génère plus d'eau. Il faut donc améliorer les capacités de rejet de l'émissaire marin. Mais PRNC souligne que les eaux sont traitées et qu'elles sont très proches de l'eau de mer, sauf qu'elles ne sont pas salées.
Il est 17h57, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, la suite de l'actualité. Nous reviendrons notamment sur cette journée magique qu'une centaine d'enfants ont vécu ce matin.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Douleur articulaire ou musculaire, mal de dos, mal de genou, le roller pur essentiel articulation et muscles réduit immédiatement et durablement la douleur grâce à sa bille massante et ses 14 huiles essentielles. C'est cliniquement prouvé. Dispositif médical en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Et pour la préparation et la récupération musculaire, découvrez l'huile de massage Arnica Golteri pur essentiel avant et après l'effort.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Info soir, Lionel Sabot.
Éleveurs et agriculteurs étaient réunis aujourd'hui à Boulou-Paris pour la 3e édition des rencontres de qualité. L'objectif est de construire des accords commerciaux capables de soutenir l'ambition de la Chambre de l'agriculture et de la pêche qui est Mangeons local. Les explications de François Haas, il est membre de la Chambre en charge de la mise en marché et valorisation des signes de qualité.
On essaye de faire des éditions dédiées aux différents signes de qualité qu'on a fait déjà sur l'agriculture responsable, sur les poulets fermiers certifié authentique. Aujourd'hui, c'est sur le label BioPacifica et en l'occurrence sur la viande bio. Le mangeon local est mis à l'honneur lors de ces rencontres de qualité qui ont pour but de rassembler des éleveurs en bovins bio et des acheteurs professionnels et également du coup des intermédiaires comme des ateliers de découpe. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait des échanges entre tous ces acteurs de la filière et que, in fine, il y ait des partenariats commerciaux qui se créent dans les semaines et mois qui viennent.
Les participants ont visité un élevage, puis participé à des tables rondes. Une prochaine rencontre devrait avoir lieu dans les prochains mois sur le thème de la pêche responsable. Une journée magique et un rêve de gosse accompli. Une centaine d'enfants, certains atteints de handicap, ont pu survoler Nouméa ce matin durant une vingtaine de minutes pour leur plus grand bonheur, Charlotte Coulson.
Oui, c'est l'histoire d'une rencontre entre des enfants ordinaires et extraordinaires. Depuis près d'un an, le Rotary Club du Wentoro et les différentes structures d'accueil des publics en situation de handicap sur le territoire organisent des rencontres pour que les jeunes apprennent à se connaître et à appréhender leurs différences. C'est le but de l'action nationale Rêve de Gosse qui est organisée pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, explique Patrice Millot, co-organisateur de l'action Rêve de Gosse.
C'est surtout effectivement un projet pédagogique qui a commencé au mois de mars avec la rencontre des enfants ordinaires et des enfants extraordinaires pour favoriser l'inclusion entre ces enfants-là. Et c'est magique puisque effectivement on a fait des journées pédagogiques qu'on appelle des journées remarquables. C'est très codé dans le langage rêve de gosse. Donc ces journées remarquables ont été parfois entre deux classes, enfants ordinaires, extraordinaires. Et on a fait deux grandes rencontres où la centaine d'enfants étaient tous là à la CH pour faire avancer sur les différents projets pédagogiques. Des peintures, des Legos, on a fait des courses en fauteuil roulant, c'était extraordinaire.
Et aujourd'hui, point culminant de cette initiative, 40 enfants ordinaires et 60 extraordinaires ont pu monter à bord d'avions et même d'un casa pour un vol au-dessus du lagon depuis l'aérodrome de Magenta.
Déjà ce matin, il était tout content de partir. Il fallait qu'on fasse vite pour le préparer et tout ça. Alors j'espère que ça va lui faire plaisir. Mais comme il aime bien tout ça, je pense que ça ne va pas lui déplaire.
Oyez, oyez, un dernier appel pour l'embarquement. Je répète, les gommettes roses sont attendues à l'embarquement Casa.
Allez, on leur fait un grand coucou. Tata, les enfants, à tout à l'heure.
J'aime bien monter dans l'avion.
Oui, déjà, aller dans un avion.
Et voilà, ils se posaient.
Comment s'est passé ce vol? Comment ils l'ont ressenti? Est-ce que ce rêve s'est réalisé?
Trop bien!
Vous avez vu quelque chose?
Le lagon et la barrière de corail.
Moi, j'ai cru voir une tortue un moment.
J'ai bien aimé parce que le décollage, ça faisait un peu de bruit, mais après, c'était bien. Mais quand on est arrivé là-bas à faire des virages, d'un moment, il y a eu un peu de secousse. C'était la première fois que j'étais dans un avion de militaire. Ça m'a très plu.
Et pour cette occasion, le vice-président de Rêve de Gosse, François-Anthony Knapik Briden, est venu en Nouvelle-Calédonie.
Le vol, ce n'est qu'un prétexte en fait pour nous. Pour nous, le vrai travail, c'est le projet pédagogique qui va durer un an, où ces enfants vont se rencontrer. Nous, on utilise le vocable enfant au parcours extraordinaire et ordinaire. Entendons extraordinaire comme des parcours cabossés par la vie, la maladie, la société, la justice. Ces enfants se rencontrent, ils font un projet commun, et on utilise l'aéronautique comme un vecteur pour qu'ils s'en souviennent toute leur vie. Nous, on dit toujours, par exemple, nos enfants, ils vont faire leur premier vol aujourd'hui, on veut qu'ils s'en souviennent, mais on veut surtout qu'ils se souviennent avec qui ils ont volé. En tant qu'adulte, on se souvient toujours du premier vol qu'on fait. Ben, nous, on veut que nos enfants, nos gosses, ils se souviennent du premier vol qu'ils ont fait avec un enfant qui n'était pas comme eux, un peu différent, un peu à côté. On plante les graines de l'inclusion.
Guy Raguin et Pierre Ferban qui étaient les parrains de cette action Rêve de Gosse en Nouvelle-Calédonie. Si Guy Raguin était bien présent ce matin, Pierre Ferban, lui, n'a pas pu se rendre à l'aérodrome de Magenta en raison de son récent déplacement pour les championnats du monde handisport en Inde.
Oui, j'ajoute que nous reparlerons de cette étape calédonienne de Rêve de Gosse. Ce sera demain matin, 7h30. C'est Anthony Knapik Briden, le vice-président de Rêve de Gosse France, qui sera notre invité du matin. Rendez-vous à 7h30 sur RRB. Les élèves du collège Edmé Varin sensibilisés au développement durable cette semaine. Le personnel de l'établissement a organisé ce matin un forum. Associations et organisations en lien avec l'environnement étaient réunies pour présenter aux collégiens les différents modes d'action en faveur de l'environnement, Charlotte.
De la couture à la confection d'éponges recyclées, en passant par l'art, les actions pour le développement durable peuvent prendre des formes diverses et variées. Car il est important d'initier la jeunesse à cette problématique. C'est en tout cas la motivation du Centre d'initiation à l'environnement. Fabienne Bourdeau s'est rendue disponible pour répondre aux interrogations des collégiens ce matin.
Les 17 ODD, c'est les 17 objectifs du développement durable mis en place par l'ONU qui doivent être réalisés avant 2030. D'ailleurs, on les appelle aussi l'agenda 2030.
C'est pas juste, parce qu'on pense souvent au développement durable, bah ouais, c'est juste arrêter la pollution, etc. Bien sûr, il y en a, par exemple, la protection des espèces marines, terrestres, etc. Mais c'est aussi arrêter la faim, réduire les inégalités sociales, etc. C'est vraiment que ce soit durable dans le temps et que ça m'apporte beaucoup parce que bah, j'ai découvert plein de genre d'associations, etc., qui luttent justement pour le développement durable, qui font en sorte d'améliorer la planète.
Et quoi de mieux justement pour sensibiliser le jeune public que la pédagogie par les pairs ? Depuis plusieurs années déjà, des élèves peuvent se porter volontaires pour devenir éco-délégués dans leur collège. Cette année, ils sont 12 à avoir choisi de s'engager. Ils ont pris le temps ce matin de partager leurs connaissances avec leurs camarades. C'était par exemple le cas de Eva et de Anne que vous venez d'entendre, toutes les deux éco-déléguées et élèves de 3e au collège Edmé Varin. Elles ont pu également découvrir tous les stands qui étaient proposés dans la cour du collège, notamment celui de Fabienne Bourdeau, qui est donc membre du Centre d'initiation à l'environnement.
Vous voyez que là, pendant la récréation, spontanément, ils viennent par curiosité, attirés par des opérations zéro mégot ou autres. Et donc, effectivement, à partir de là, on va pouvoir faire passer des messages, pouvoir leur dire des messages forts pour qu'ils puissent être des acteurs de demain et d'aujourd'hui. La jeunesse, bien sûr, on dit toujours c'est elle qui sera décisionnaire demain. Il faut vraiment la sensibiliser parce que je pense qu'ils ont encore cette capacité à agir, à être moteur. Plus rapidement à changer les comportements, peut-être plus facilement que les adultes, mais les adultes aussi, il faut les sensibiliser. Donc c'est vrai que c'est une cible qui est vraiment privilégiée pour nous, mais aussi les adultes, on les oublie pas.
Des ateliers confection de cosmétiques, de gestion des eaux ou même d'information sur les droits de l'enfant seront organisés le reste de la semaine au collège Edmé Varin à Daméa.
Avis aux lecteurs, la médiathèque de Nouméa a ouvert une salle de lecture temporaire. Elle est située au musée de la ville. Plus de 8000 documents y sont disponibles à l'emprunt ou à la consultation sur place, Charlotte.
Et c'est une très bonne nouvelle pour les Nouméens qui, depuis l'année dernière, n'ont plus aucune médiathèque, ni à Caméré, ni à Rivière-Salée, puisque les deux établissements ont été brûlés pendant les émeutes de l'année dernière. Dans son malheur, le personnel de la mairie avait tout de même réussi à récupérer quelques documents, notamment grâce à la mobilisation de généreux bénévoles. Le service a tenté de se réadapter, d'abord avec une formule de click and collect à la maison des associations de l'orphelinat, mais rien à voir avec une véritable médiathèque, selon Véronique, une fidèle lectrice qui était très heureuse de revoir les bibliothécaires aujourd'hui.
Depuis le 13 mai de l'année dernière, je ne suis pas retournée dans une médiathèque. Donc là, c'est un grand moment aujourd'hui. Le système click and collect ne me convenait pas trop. Donc j'empruntais des livres en fait, à des amis, mais j'attendais vraiment que ça réouvre physiquement, quoi. Ça change beaucoup parce qu'en fait, déjà le contact avec les livres, le fait de rencontrer les personnes qui travaillent dans cet espace. Et puis ben, là, je trouve que le lieu est juste super, quoi. Donc j'avais très envie de venir aujourd'hui quand j'ai appris ce matin que ça réouvrait.
Et il y en a d'autres qui se réjouissent de cette réouverture. Ce sont les médiathécaires, comme Florence Maillez, qui travaille pour la ville de Nouméa.
Qu'on retrouve un secteur adulte, un secteur enfant, secteur adolescent, le fonds local comme précédemment, dans un petit espace, mais néanmoins très agréable. Pour nous, c'est un petit peu nouveau aussi, mais néanmoins, depuis ce matin, on a quand même un petit peu de monde et surtout, on a du public de proximité. Donc ça, c'est, pour nous, ça va être peut-être des nouveaux publics à saisir. On est ravis de retrouver notre public pour pouvoir faire notre travail de bibliothécaire, d'agent d'entretien des fonds et tout. On a besoin de notre public, on a besoin d'être en lien avec le public. Pour nous, c'est fondamental. Donc, c'était important pour nous de retrouver tout ça.
L'ouverture de cette salle de lecture est pour l'instant temporaire. 8000 documents sont disponibles à l'emprunt. Rendez-vous pour cela au musée de la ville de 9h à midi et puis de 13h à 16h30.
C'était le mini-journal de Charlotte Coulson. Il est 18h08. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur notre magazine citoyen. C'était à la mi-journée. Il était consacré à la santé mentale. Puis nous parlerons également météo. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Ah, ces assurances! J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, Leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
Et ce midi, nous avons donc parlé santé mentale dans notre magazine Citoyen. Nous sommes en effet au cœur de la semaine d'information sur la santé mentale. Une notion que l'on connaît peu, mais dont la définition est pourtant assez simple. Le docteur Karine Amselem, psychiatre au CHS, était sur le plateau de Citoyen à la mi-journée.
C'est un état de bien-être dans lequel un individu peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, avoir une activité productive et contribuer à la vie de sa communauté. Donc c'est assez riche hein, comme définition. C'est donc un équilibre dynamique entre pensée, émotion, comportement et vie sociable. Équilibre qui varie selon les événements de vie, le contexte ou les ressources personnelles. Et voilà, donc c'est parvenir à trouver un équilibre dans les différents domaines de sa vie en dépit des moments difficiles ou des événements imprévus. Donc, nous, les professionnels de la santé mentale, hein, on ne dit plus trop la psychiatrie maintenant, hein, la tendance, c'est de dire la santé mentale. On peut prendre en compte hein, toutes ces dimensions, tout ce qui concourt à cet équilibre qui est la santé mentale. C'est la définition de l'OMS.
Invité également ce midi dans Citoyen, la neuropsychologue Mélodie Appleton et Hélène Goujon, la représentante de l'association Hippocampe.
Souvent, c'est des personnes avec des profils psychotiques, comme la schizophrénie, la bipolarité, mais aussi des personnes qui souffrent de troubles psychiques comme la dépression. Et notre axe, c'est au niveau des personnes dans ces situations-là, c'est de pallier l'isolement qu'elles vivent au quotidien. On a donc une villa qu'on loue à Cutio où chaque jour on propose une activité, un regroupement. Toutes ces activités du lundi au vendredi permettent aux personnes d'avoir un but pour sortir de chez elles, de rencontrer des gens, d'être dans la bienveillance. Les années passant, les personnes en ressentent de grands bénéfices.
Présente également dans les studios de Radio Rythme Bleu ce midi, Estelle, une personne ressource qui a témoigné de son parcours et de son rôle au sein de l'association.
Je souffre de schizophrénie affective timorégulée depuis 2011. Ça a été la première fois où j'ai été diagnostiquée. Et depuis 2020, je suis stabilisée par, on va dire, un bon traitement. Et que depuis aussi, j'ai intégré l'association Hippocampe, où je me suis retrouvée et ça m'a permis de répondre à beaucoup de mes questionnements. Une personne ressource, enfin, moi, je ne peux pas l'expliquer vraiment, mais je viens de dire que c'est une personne qui vit la maladie tous les jours parce qu'elle est en moi et qu'elle ne m'empêche pas de vivre, mais voilà. Je peux facilement témoigner parce que par expérience, je l'ai vécu et je sais de quoi je parle parce que maintenant, je n'ai pas peur d'expliquer ouvertement au public la maladie, la schizophrénie que je vis.
Un citoyen consacré à la santé mentale, une émission qui est à retrouver en podcast sur notre site internet, le www.rrb.nc. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre.
Cette nuit, le ciel restera largement dégagé, même si un voile de nuages élevé viendra parfois s'épaissir par moments. Sur Bélep, Marais, l'île des Pins et localement sur la côte est, quelques nuages bas circuleront, mais sans précipitation attendue. Le vent d'est à est-sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds, se renforçant progressivement sur le nord-est et le nord des loyautés avec des pointes jusqu'à 20 nœuds. La côte ouest plus abritée restera calme avec un vent faible de secteur est autour de 5 à 10 nœuds. Les températures minimales remonteront enfin entre 17 et 22 degrés, mais resteront plus fraîches dans l'intérieur et à marée autour de 11 à 14 degrés. Demain matin, le ciel se chargera de nuages sur l'est, l'île des Pins et les Loyautés, mais le temps restera globalement sec. Ailleurs, le soleil dominera, et ça fait plaisir, souvent voilé par quelques bancs de nuages d'altitude. L'alizée de secteur est soufflera entre 15 et 20 nœuds. Côté marée, elle sera haute ce soir à 20h07 pour 1,6 m, pour redescendre demain mercredi à 2h26 pour 0,22 m, pour enfin remonter à 1,59 m à 8h37.
Il est 18h et pratiquement 15 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, il sera disponible d'ici quelques instants en réécoute sur notre site internet, le rrb.nc. Pas de journal de la rédaction d'Europe 1 ce soir, mais la diffusion de la grande interview d'Europe 1. Sonia Mabrouk reçoit Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur et président des LR. Très bonne soirée.